Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours du club privé Innover Malin, dans lequel nous allons voir comment protéger votre création. On a tous conscience que l'innovation est une compétition. Et quand on est convaincu d'avoir eu une idée en premier, eh bien on n'aime pas se faire doubler. C'est normal, d'autant plus lorsqu'on y a investi du temps. Un projet est un peu comme un bébé et prend vite une valeur importante à nos yeux. De plus, vous voyez, celui qui commercialise en premier un projet, eh bien, a souvent un avantage concurrentiel. Pour autant, on fait souvent preuve de naïveté quand il s'agit de confidentialité ou de propriété industrielle. Ceci dit, il est normal, de ressentir le besoin de parler de son projet. Car partager un projet avec d'autres est essentiel pour le faire grandir. Mais pas n'importe comment et pas avec n'importe qui. D'autant plus si vous voulez, in fine, protéger votre création. Dans l'univers créatif, il est important de rester assez ouvert au début pour s'imprégner de son environnement, des idées émergentes que d'autres peuvent avoir. Et si vous voulez que les gens vous parlent, eh bien il faut rester ouvert et ne pas sortir un contrat de confidentialité avant même d'avoir commencé à parler. Si on ne partage pas son idée, comme le fait remarquer Seth Godin, elle risque tout simplement de mourir dans le secret. En réalité, il existe plusieurs moyens pour protéger votre création. Cela commence par bien gérer sa communication en prenant quelques précautions en termes de confidentialité, voyez, ni trop ni trop peu. Puis vous avez la possibilité de dater votre création. Et enfin, vous pouvez décider de déposer un brevet ou tout simplement garder le secret. C'est ce que nous allons voir dans ce cours. Alors voyons maintenant ensemble le premier niveau de la protection qui est la confidentialité. Et parlons tout d'abord de la notion de nouveauté et de divulgation. Dès qu'une idée est suffisamment avancée et dès lors que vous commencez à mettre en œuvre une solution technique, en réponse à un problème technique, eh bien il faut commencer à être plus vigilant. Car si vous souhaitez ensuite déposer un brevet, une des conditions de brevetabilité est la notion de nouveauté. Cette nouveauté se mesure au regard de l'état de la technique à travers les brevets, mais aussi au regard des informations échangées avec ses fournisseurs et ses clients. Et c'est justement là qu'intervient la question de la divulgation. En droit des brevets, toutes les informations accessibles au public, avant le dépôt de la demande de brevet, entrent dans l'état de l'art qui lui est opposable. Et ça, même si l'information vient de vous. Voyez par exemple une présentation sur un salon avant le dépôt d'une demande de brevet, eh bien, annulera toute possibilité d'obtenir le fameux sésame si quelqu'un venait à s'y opposer. Ceci est vrai en France et un peu différent aux États-Unis et au Japon où un recours est possible sous certaines conditions. Intéressons-nous maintenant à l'émergence d'une idée. Vous avez sans doute remarqué que les idées vont et viennent, et il est toujours difficile d'ailleurs de retrouver qui a eu en premier l'idée d'un nouveau concept. Qu'on le veuille ou non, nous baignons dans un courant d'influence qui oriente nos choix, et c'est très bien comme ça. D'ailleurs, on a tous des tiroirs remplis d'idées passées aux oubliettes. Parmi elles, sans nul doute, une idée géniale qu'on n'aura pas su reconnaître. Ça veut bien dire qu'une idée seule ne vaut rien si on ne sait pas voir son potentiel. Et c'est souvent là que certains, finalement, ont plus de talent que d'autres. Quand on parle de confidentialité, la règle numéro 1 est de parler peu et écouter beaucoup. Au tout début d'une idée, parlez-en avec votre entourage et voyez comment les autres réagissent. En quelque sorte, enrichissez votre idée avec celle des autres. Dites-vous que l'idée que vous avez eue a besoin de s'étoffer à travers le regard d'autrui. Évidemment, il faut communiquer intelligemment et avoir l'art de laisser parler. C'est le moment de l'écoute et de l'évaluation. À ce moment-là du projet, vous avez sans doute plus à gagner qu'à perdre. Mais bon, voyez, c'est une histoire d'appréciation. Il m'est souvent arrivé d'obtenir bien plus à communiquer une idée qu'à la garder pour moi. À avoir peur de se faire voler une idée par ses concurrents, eh bien on risque surtout de rester scotché dans sa tour d'ivoire. En revanche, approcher des contacts de manière intelligente, eh bien peut se révéler fructueux et peut même donner lieu à un éventuel partenariat. Puis la règle numéro 2 est de compartimenter votre communication. En public, ne divulguez pas votre invention, et en privé, ne donnez pas toutes les informations à une même personne. Il y a danger si on dévoile son projet sans retenue à une personne en capacité d'en comprendre les mécanismes et de mettre en œuvre la solution. De plus, une idée sera plus facilement comprise par une personne qui possède des compétences dans le secteur en question. Donc voilà, il faut être vigilant par rapport à ça. Cette étape peut donner des sueurs froides d'ailleurs, car il n'est pas toujours possible de travailler seul sur une solution technique avant le dépôt d'un brevet, à moins d'avoir la chance évidemment de posséder toutes les compétences et la structure pour développer, prototyper, tester, etc., etc. Et donc, pour éviter de prendre des risques, il vaut mieux compartimenter sa communication. Vous l'avez compris, l'idée est de donner le juste nécessaire pour savoir quoi faire et de ne jamais tout dévoiler à une seule personne. Ensuite, la règle numéro 3 est de signer un contrat de confidentialité. Dans le cas où vous devez vraiment dévoiler une solution technique, comme pour le cas d'un partenariat, sans avoir eu le temps au préalable de déposer un brevet, je vous conseille de signer un contrat de confidentialité. Ce contrat avec un tiers doit l'engager à conserver les informations confidentielles pendant une durée donnée et à ne pas les utiliser sans votre accord préalable. Ce document devra contenir au minimum une courte description de l'innovation pour fixer une limite à la confidentialité. Ensuite, des infos plus précises peuvent être jointes en annexe pour rendre encore les choses beaucoup plus claires. Dans le cas d'un partenariat, par exemple, où chaque partie pourra proposer des solutions, vous voyez, eh bien il faudra prévoir une clause pour préciser à qui appartiennent les résultats des travaux. Ce point est crucial pour la suite du dépôt de brevet et pourra déboucher d'ailleurs sur plusieurs cas de figure, comme par exemple la cession des droits ou alors le fait que chacun puisse tout simplement déposer un brevet sur sa zone d'expertise. Enfin, tout ça est à préciser le plus clairement possible, et pour vous aider, je vous expliquerai à la fin de ce cours comment télécharger deux exemples de contrats de confidentialité. Et enfin, la règle numéro 4 est de garder une preuve de votre idée. Lorsque votre concept est illustré pour la première fois, eh bien vous pouvez acter le fait que vous avez eu cette idée à une date donnée. On ne sait jamais de quoi sera fait l'avenir et il vaut toujours mieux prendre des précautions. Pour commencer, rassemblez les preuves qui attestent que vous êtes le créateur du concept. Puis, vous pouvez utiliser par exemple une enveloppe Solo, du nom d'ailleurs de l'inventeur Eugène Solo, et aujourd'hui, dites-vous que par le biais de l'INPI, l'Institut National de la Propriété Industrielle, tout le monde peut se constituer une preuve de création, sous réserve évidemment d'être à l'origine de l'idée. Voyons justement comment dater votre création avec une enveloppe Solo. Alors, dans quel cadre utiliser une enveloppe Solo? L'enveloppe Solo permet de dater des créations et vous identifie comme auteur pour une œuvre littéraire, une création musicale, graphique et plastique, un logiciel, une création de mode, un concept d'entreprise ou de service, une solution technique, un procédé ou une méthode de fabrication. Donc vous voyez, c'est assez large finalement, et toute personne voulant se constituer une preuve de la date d'une création peut déposer une enveloppe Solo. Il n'y a aucune limite en lien avec l'activité ou le métier. Quand peut-on déposer une enveloppe Solo? Alors, il peut être utile de déposer une enveloppe Solo à différentes étapes de votre projet. Par exemple, pendant une phase de recherche pour attester et dater de façon certaine l'avancée de vos études. Systématiquement après un processus créatif lorsque des idées intéressantes sont générées, avant de contacter un partenaire pour faire valoir la présence d'une idée officiellement enregistrée et mettre en place un contrat de confidentialité, ou alors avant de déposer un brevet d'invention pour vous laisser plus de temps pour concrétiser votre projet. Voyons maintenant les limites de l'enveloppe Solo. Il est important de rappeler que l'enveloppe Solo n'est pas un titre de propriété industrielle. Elle permet juste de déposer une création et de donner une date certaine à son contenu, rien de plus. À la différence d'un brevet ou d'un dépôt de modèle, le propriétaire de l'enveloppe n'a pas de droit exclusif sur la création. Elle ne permet pas de poursuivre une personne pour contrefaçon, par exemple. En revanche, en cas de litige avec une personne qui a déposé un brevet, l'enveloppe solo permet à son propriétaire de démontrer qu'il connaissait l'invention à une date antérieure. Et c'est là tout l'intérêt. Ça lui permet de continuer d'exploiter l'invention uniquement à titre personnel, ce qui est déjà pas mal, hein. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il n'a pas la possibilité de céder ce droit à des tiers. À noter également que les services de l'INPI, conserveront durant 5 ans vos documents. Et ce délai est renouvelable une seule fois. Alors c'est sûr qu'on peut regretter que ça ne soit pas plus long, surtout avec un format numérique maintenant, on ne voit pas quelle est la raison finalement pour laquelle on ne peut pas stocker ces informations plus longtemps. Enfin bon, c'est comme ça, tenez en compte ces délais, 5 ans plus le renouvellement de 5 ans, donc au total 10 ans maximum. Voyons maintenant ce que doit contenir l'enveloppe solo. L'enveloppe solo doit contenir une description textuelle de votre création et ou une reproduction en deux dimensions avec l'aide de schémas par exemple, de dessins, des croquis ou éventuellement même des photos. En réalité, le contenu est libre de toute présentation, mais dans les faits, moi je vous conseille de décrire le plus possible votre idée. En clair, plus il y aura de contenu, plus vous aurez d'arguments à faire valoir en cas de contestation. Alors comment déposer votre création avec eSolo? eSolo, c'est le système numérique de l'enveloppe solo sur le site de l'INPI. Eh bien, ce service récent de l'INPI, qui date de 2016, est accessible en ligne vraiment en quelques clics, c'est vraiment tout simple. eSolo est donc tout simplement un processus d'archivage certifié et sécurisé. Pour chaque création déposée sous la forme d'un fichier, une copie sera conservée dans le système d'archivage électronique de l'INPI. Alors il faut juste faire attention au format, tous les formats ne sont pas autorisés, et puis à la limite également de chargement en mégaoctets, il y a également une limite à prendre en compte, mais vous verrez, c'est vraiment très large. Ainsi, vos documents seront accessibles directement depuis le site internet dans votre espace personnel. Et en même temps, un récépissé vous sera délivré par mail, vous permettant d'archiver de votre côté la preuve de ce dépôt. Alors vous trouverez juste au-dessous de la vidéo, je vous ai laissé le lien qui permet d'accéder directement sur le site de dépôt, donc pour déposer une enveloppe solo sur le site de l'INPI. Et puis, à un moment donné, arrivera le choix de déposer un brevet ou de garder le secret. Faisons un point à ce sujet. Brevet ou secret, clairement, souvent, il y a un dilemme. Face à une invention, et pour en tirer un profit durable, la question du brevet se pose presque toujours. En réalité, on n'a pas toujours les clés d'ailleurs pour orienter nos décisions dans la bonne direction en connaissance de cause. C'est la raison pour laquelle je vous propose de découvrir les différents aspects du brevet et du secret, afin de vous permettre de prendre de bonnes décisions pour votre projet. Et en vous posant les bonnes questions, vous éclairerez votre réflexion et prendrez des décisions avec plus de sérénité. Il faut tout d'abord prendre en compte la notion de durée. Le secret est intéressant dans la mesure où tant qu'il est préservé, vous êtes protégé. Dans l'absolu, la protection est durable. Ce qui n'est pas le cas d'un brevet qui protège une invention au maximum pendant 20 ans. En revanche, comme on peut l'imaginer facilement, il n'est pas toujours facile de garder un secret pendant plus de 20 ans. De prime abord, dans le cas du brevet, protéger une idée pendant 20 ans peut sembler court quand il s'agit de monopole. Mais c'est aussi vraiment très long du point de vue des évolutions technologiques. Et aujourd'hui, une techno peut vite devenir obsolète. Donc c'est à prendre en compte. Nous avons abordé tout à l'heure la confidentialité lors de l'émergence d'une idée. Mais c'est encore tout autre chose de maintenir durablement le secret. Le fait d'organiser le maintien durable du secret en entreprise est une démarche vraiment assez lourde. Alors vous voyez, cela doit être pris en compte au niveau des contrats, des processus, des droits d'accès, des habilitations, de la confidentialité, etc. En somme, c'est une vraie culture à intégrer qui ne s'improvise pas et qui demande l'implication de tous. Mais en réalité, il est assez difficile de garder le secret au niveau industriel, ce ne serait qu'à travers les flux humains entre les entreprises. Et donc, même avec des clauses contractuelles, il semble assez difficile de prouver une concurrence déloyale. Un autre point à prendre en compte est que la publication d'un brevet met la puce à l'oreille. Le brevet est un moyen de protection, mais la contrepartie est qu'il donne des idées à vos concurrents. Ils comprennent là où vous travaillez et peuvent chercher à contourner intelligemment vos inventions. C'est un risque à prendre en compte. D'ailleurs, l'information contenue dans un brevet est justement là pour servir à d'autres. Si vous voulez, la collectivité a tout intérêt à ce qu'un brevet soit déposé. C'est le moyen de s'assurer que le secret de l'invention ne finisse pas avec l'inventeur dans sa tombe. Un petit peu à l'image de Stradivarius qui a emporté avec lui son secret, et même encore aujourd'hui, eh bien, on ne sait toujours pas comment il a réalisé ses violons. Parlons maintenant d'un risque de contrefaçon auquel vous n'avez peut-être pas pensé. Pour celui qui choisit le secret, il y a un risque de faire face quelque temps après à un concurrent qui lui aura choisi de déposer un brevet. Et là, la situation peut se retourner contre celui qui a eu l'idée en premier, mais l'a gardée secrète. Dans ce cas, il faut réussir à prouver l'antériorité de l'invention. En cela, l'enveloppe solo peut être un moyen bien utile pour apporter une preuve et ainsi garder la liberté d'exploitation. Abordons maintenant une discipline plutôt discrète, la rétro-ingénierie. De nos jours, la rétro-ingénierie est de plus en plus efficace. Avec peu de moyens, ou en sous-traitance, eh bien, il est facile d'analyser des matériaux et des procédés de production. Et c'est encore plus facile quand les concurrents indiquent les matériaux utilisés directement sur les produits. Aujourd'hui, il est donc difficile de garder le secret, même sur ce qui ne saute pas aux yeux, comme par exemple des matériaux et des procédés de fabrication. Alors l'histoire de Michelin, souvent citée, eh bien, est un bon exemple pour illustrer l'évolution de la réflexion. Il y a 50 ans, la capacité des concurrents pour analyser une composition de caoutchouc était inexistante. Michelin pouvait donc conserver ses secrets de fabrication. Aujourd'hui, les analyses ont fait de tels progrès que ce n'est plus possible. Et d'ailleurs, depuis les années 80, eh bien Michelin dépose de plus en plus de brevets, y compris sur des procédés. Lorsqu'on parle de brevets, on doit aussi aborder l'exploitation. L'avantage du brevet est qu'il permet d'attribuer des licences d'exploitation. Ça a donc un intérêt dans le cadre d'un partenariat, par exemple. Si vous imaginez céder une partie de vos droits auprès d'un tiers, eh bien la licence vous offrira un cadre législatif intéressant. Pour un inventeur qui souhaite exploiter un brevet à titre personnel, eh bien il ne faut pas sous-estimer le temps de trouver ses clients potentiels et les moyens pour prouver que le concept fonctionne. Abordons maintenant la brevetabilité. Car il faut aussi prendre en compte que certaines conceptions ou procédés ne peuvent pas prétendre à un dépôt de brevet faute d'inventivité, tout simplement. Mais cela n'en reste pas moins un avantage important à protéger, et bien dans ce cas, le secret peut apporter un avantage concurrentiel à ne pas négliger. Et enfin, parlons du coût, car c'est un point important que l'on soit inventeur indépendant ou faisant partie d'une société. Vous vous en serez douté, le brevet a un coût, donc il vaut mieux utiliser ce moyen de protection pour les inventions à forte valeur. C'est-à-dire des inventions qui ont un fort potentiel économique et sur une durée significative. L'aspect de la rentabilité est à pondérer en fonction du coût du brevet, évidemment. Si vous déposez le brevet par vous-même en France, par exemple, eh bien, pour un montant de 500 euros, la réflexion ne sera pas la même que pour un brevet déposé à l'aide d'un conseil en propriété industrielle qui vous demandera peut-être une somme équivalente à 5 000, 6 000, voire 7 000 euros. Mais d'un autre côté, vous voyez, organiser le maintien du secret en entreprise a aussi un coût indirect à ne pas sous-estimer. Maintenant que nous avons abordé tous ces points, voyons ensemble les 7 questions à se poser pour une invention. Tout d'abord, mon invention remplit-elle les 4 critères de brevetabilité? Ce sont des questions préalables intéressantes à se poser avant d'imaginer pouvoir déposer un brevet. Ensuite, est-ce que les choix techniques de mon invention sont analysables facilement en rétro-ingénierie par mes concurrents? Mon invention s'appuie-t-elle sur une technologie pérenne ou bientôt obsolète? C'est toujours intéressant de le savoir. Ensuite, Est-ce que mon invention répond à un marché potentiel suffisamment grand au regard du coût de mon brevet? Suis-je sur un marché concurrentiel au niveau technologique? Puis, est-ce qu'un transfert technologique est envisageable pour mon invention? Et enfin, mon entreprise est-elle organisée pour préserver un secret et gérer correctement la confidentialité? Vous voyez, toutes ces questions, assez simples finalement, eh bien vous feront avancer dans la réflexion pour faire les bons choix. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. C'est le moment de tester vos connaissances et ce que vous avez retenu de ce cours. Pour ça, je vous propose un petit quiz. Il vous suffit de cliquer sur le lien juste au-dessous de la vidéo. Et puis, nous avons abordé la notion de confidentialité et la possibilité de signer un contrat de confidentialité avec vos partenaires. Eh bien, vous trouverez aussi au-dessous de cette vidéo un lien avec deux documents types prêts à l'emploi. Et je vous ai aussi indiqué le lien pour déposer une enveloppe solo, donc c'est le lien internet pour accéder au site de l'INPI. Voilà, c'est la fin de ce cours, je vous souhaite un bon quiz et à bientôt dans la prochaine vidéo.